RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. On parle énergie fossile et des campagnes lancées par des chrétiens pour réclamer à leurs institutions et communautés de désinvestir des énergies fossiles. Une des campagnes portées notamment par le mouvement Laudato Si et aussi par le collectif Lutte et Contemplation. Alors on en a déjà beaucoup parlé dans la première partie. Je vous propose de regarder comment ce désinvestissement peut s'opérer concrètement. Vous allez entendre des chrétiens qui sont déjà passés à l'action dans des diocèses, des paroisses ou des communautés. Et vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Vous êtes engagés d'une manière ou d'une autre contre les énergies fossiles. Venez témoigner, dites-nous pourquoi, en tant que chrétien aussi, c'est important pour vous. Savez-vous si votre diocèse ou votre paroisse a désinvesti ou s'apprête à le faire? Ou si vous pensez vous-même vous mobilisez pour interpeller vos institutions chrétiennes sur le sujet? Et puis, quel rôle, d'après vous, peuvent avoir les chrétiens dans un mouvement plus général? On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
On parlera aussi avec notre chroniqueur à 10h55 de la Fast Fashion. Ce sera Julien Deséco, le directeur de publication du média Sans Transition, qui a suivi toutes les dernières actualités autour de la Fast Fashion. Pour nous accompagner jusqu'à 11h, je vous présente deux invités, un catholique et une protestante. Et je commence avec le catholique. Bonjour Olivier Bouliez.
Bonjour.
Merci à l'équipe de RCF Isère qui vous accueille en studio à Grenoble. Vous êtes le catholique, Olivier, vous êtes référent écologie intégrale du diocèse de Grenoble-Vienne. Oui. Référent écologie intégrale, vous nous rappelez vraiment ce que ça veut dire?
Alors, c'est finalement suite à la publication de Laudato Si, où petit à petit dans l'Église catholique, l'importance du sujet est montée en puissance. Et donc, ça a commencé par au niveau des évêques qui se réunissent, comme chacun le sait, ou comme on peut le savoir, deux fois par an à Lourdes, une semaine, et qui, de 2019 à 2022, ont consacré deux jours de cette semaine, deux fois par an, donc ça a fait cinq fois deux jours d'évêque, à regarder tous les aspects de l'écologie. Et parmi les choses qui sont sorties de leur réflexion, il y a pas mal de choses, on pourra en parler, mais il y a la nomination dans chaque diocèse d'un référent ou d'une équipe de référents à l'écologie dont l'objectif est de pousser, tirer, crier, pleurer, supplier pour que tous les chrétiens se mettent en route, tous les chrétiens, toutes les paroisses, tous les monastères, toutes les associations se mettent en route pour vraiment déployer et faire vivre Laudato Si dans le diocèse.
Et donc, tout logiquement, dans chaque diocèse, il devrait y avoir un référent écologie intégrale, Olivier.
Exactement, il devrait y avoir, et il y en a aujourd'hui dans à peu près 80% des diocèses.
Bon, il y a encore du chemin à parcourir. Olivier, je vous présente Charlotte Mijon avec nous également. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Merci à vous d'avoir accepté de participer à l'émission. Merci à l'équipe de RCF Alpha à Rennes qui vous accueille. Vous êtes la protestante, Charlotte, responsable du label Église Verte au sein de l'Église protestante unie de Rennes. Alors je précise aussi que vous faites partie du mouvement Lutte et Contemplation dont on a beaucoup parlé dans la première partie de l'émission et qui a lancé cette campagne avec le mouvement Laudato Si de désinvestissement des énergies fossiles. Peut-être un mot, vous, Charlotte, en tant que chrétienne, sur cette campagne. Est-ce que voilà, vous la soutenez, j'imagine, en faisant partie du mouvement?
Alors oui, je la soutiens complètement et très, très activement. Je trouve que c'est vraiment capital. Parce que souvent, en tant qu'individu, on se dit qu'on manque de levier pour passer au cran du dessus. Disons qu'on peut avoir une prise sur nos actions individuelles, même s'il y a des choses sur lesquelles on a plus ou moins de latitude pour opérer des évolutions. Mais souvent, il nous manque l'échelon qui permette de passer au-dessus. Et cette question du désinvestissement, alors bon, on est d'accord, ce n'est pas ça qui va tout de suite faire tomber Total, mais en tout cas, c'est un levier que je trouve extrêmement important pour passer de l'individuel au collectif, et aussi non seulement pour le faire, pour très concrètement arrêter de financer donc les énergies fossiles, mais aussi, ce faisant, pour provoquer une prise de conscience. Et je trouve que ça, c'est aussi quelque chose qui est très important. Se dire qu'est-ce que ma paroisse, qu'est-ce que mon église fait avec cet argent, et aussi mener individuellement tous les membres de l'église, de la communauté, à se dire oui, et moi qu'est-ce qui se passe avec mon propre argent, en fait, avec la banque à laquelle je suis.
Vous faites partie du label Église Verte, alors c'est presque la même chose que les référents écologie intégrale. On va en parler.
Pas tout à fait.
Pas tout à fait. Mais en tout cas, c'est dans la lignée, c'est à la suite vraiment de l'encyclique Laudato aussi du pape François.
Alors, pas tout à fait. Église Verte, en fait, c'est une association donc qui est œcuménique, qui existe en France depuis 2017, et dont le but, en fait, est de faire progresser les paroisses catholiques, protestantes, orthodoxes, bientôt évangéliques, d'ailleurs en plus, sur leur prise de conscience écologique et leur conversion écologique sur des sujets qui peuvent être très concrets, par exemple, est-ce que les bâtiments sont isolés, est-ce que par exemple si on a du terrain à quoi on l'occupe, est-ce qu'on fait le tri des déchets, est-ce qu'on fait attention à ce qu'on achète pour le pot après chaque dimanche, mais aussi est-ce que dans la liturgie on intègre les questions de justice écologique, de climat, de respect de la création. Et donc cette association, en fait, donc chaque paroisse peut donc créer un petit groupe et faire la démarche pour donc progresser au sein d'Église Verte. On peut commencer, mais vraiment de pas grand-chose, juste se dire on est quelques-uns et on veut s'y atteler. Et ensuite, progressivement, donc il y a une évaluation des pratiques de la paroisse qui est effectuée. Et ensuite, on voit quels sont les points d'amélioration à apporter, et comme c'est national, comme il y a aussi des possibilités de mise en réseau, c'est aussi l'occasion de voir ce qui se fait dans d'autres paroisses, dans d'autres régions, et peut-être d'avoir un soutien, une émulation.
Olivier Boulier, est-ce que les référents écologie intégrale travaillent main dans la main avec le label Église Verte ?
Je peux dire sans me tromper que tous les référents écologie intégrale sont ambassadeurs Église Verte. Le label Église Verte, quand j'en parle, je dis toujours que c'est un outil. C'est un outil de structuration d'action, donc qui permet de faire, effectivement, comme ça a été décrit, un diagnostic un peu de la situation, d'examiner, de voir sous tous les aspects de l'écologie intégrale, donc pas seulement le tri des déchets, mais comme ça a été dit, la liturgie et aussi les relations avec les associations laïques, donc de faire un diagnostic et de choisir des actions. Donc c'est vraiment un outil de structuration d'action et c'est l'outil le plus important qu'on ait. Donc bien sûr on l'utilise, on travaille la main dans la main avec l'association Église Verte, bien évidemment.
Alors ce qui nous a permis de faire cette émission ce matin, et je l'ai dit en introduction, ce sont ces campagnes lancées par des chrétiens pour réclamer à leurs institutions et communautés de désinvestir des énergies fossiles. Vous n'avez pas attendu ça, vous, Olivier? Ça fait quelques temps que vous travaillez déjà sur ces questions.
Ni moi, ni d'autres diocèses, et ni le diocèse de Grenoble d'ailleurs, qui s'était mis en route avant ma nomination. Qu'est-ce que je peux dire? Déjà, les référents écologie intégrale qui se rencontrent tous les ans à peu près, dès 2019, ont commencé à travailler sur quelles pourraient être les pistes d'action communes. Et on commençait déjà à un peu tenser nos évêques en leur disant, parmi ces pistes d'action, on en a aujourd'hui identifié 44 pour être très précis, il y avait déjà le désinvestissement des énergies fossiles qui était clairement nommé, clairement identifié. Il a d'ailleurs été repris dans le livre qui s'appelle « Ensemble pour notre Terre » qui résume un peu les cinq fois deux jours d'évêques dont je parlais, qui a été publié en 2023. Sur la position des évêques de France, et on a repris tous ces engagements ou ces propositions d'engagement au diocèse, ces 44, dont le désinvestissement. Donc déjà, c'était dans la tête de beaucoup de monde. Et on est, bon, je le dis tout de suite, on est ravis du relais que, et de l'énergie que met lutte et contemplation dans, dans ce mouvement-là.
J'aime. Sinon, oui. Allez-y, Olivier,
sinon,
je vous ai coupé
pour venir sur, sur le diocèse de Grenoble-Vienne, j'ai bien sûr pris rendez-vous avec l'économe du diocèse assez rapidement. Et j'ai découvert qu'en 2017, le diocèse s'était mis en route. Donc dès 2017, il avait écrit une charte de placement financier, qui explicitait déjà le désinvestissement, enfin pas que le désinvestissement, cette charte était autour de la doctrine sociale de l'Église, donc avec sur tous les éléments de la doctrine sociale de l'Église, dont l'environnement, dont la gouvernance d'entreprise, dont l'écologie humaine, dont les respects du droit du travail. Et cette charte d'investissement, elle l'a publiée. Ensuite, le diocèse de Grenoble a fait créer un fonds financier dédié dans lequel il a mis ses biens. Et il l'a confié à des gestionnaires, il a fait un appel d'offres auprès de gestionnaires de fonds en disant « voilà mon fonds, voilà mon argent ». Donc il a fait homologuer ce fonds auprès de l'AMF, pardon. « Voilà ce fonds qui existe, voilà les règles de gestion. Est-ce que vous vous engagez à gérer mon fonds avec ces règles de gestion ?» Et on se rencontre tous les ans pour définir quel est l'objectif de rentabilité, parce qu'on est dans un monde qui n'est pas un pur esprit, donc il y a un objectif de rentabilité sur ce fonds. Et est-ce possible avec ces règles? Et quel arbitrage entre les règles et l'objectif financier? Donc depuis 2017, c'est quelque chose qui tourne. Et depuis 2017, je peux dire que au moins le diocèse de Grenoble-Vienne désinvestit progressivement tous ces fonds des énergies fossiles.
Ce qu'on entend, Charlotte Mijon, c'est que ça bouge quand même hein, sur ce sujet-là. Je me souviens, on avait fait une émission avec Lutte et Contemplation sur le projet ICOP de Total. C'était déjà une émission consacrée aux énergies fossiles. Qu'est-ce que vous avez pu observer avec vos lunettes de membres du label Église Verte, d'ambassadrice, et puis également de Lutte et Contemplation? Est-ce que vous constatez qu'en effet, depuis quelques années, il y a peut-être eu un semblant de prise de conscience?
Alors effectivement, en fait, quand la campagne avec Lutte et Contemplation a été lancée, même au cours de sa préparation, je me suis renseignée en me disant, mais et au fait, mon église au niveau national, donc l'église protestante unie de France, où est-ce qu'elle en est là-dessus? Et en fait, j'ai découvert que donc il y a eu une décision assez importante il y a quelques années, donc à l'occasion du synode national de Paris 7, donc qui était dédié à l'écologie très précisément. Et donc au cours de ce synode, donc il y a un texte qui a été adopté et où sont abordées énormément de choses et notamment des choses assez intéressantes sur cette question-là, où l'on voit qu'on demande, par exemple, l'Église protestante unie de France demande, donc le synode national l'Église protestante unie de France encourage et appelle les paroisses et églises locales à veiller à la cohérence de leurs pratiques en matière de respect de la création. Toutes les dimensions de la vie ecclésiale sont concernées, et là vient en premier, placement financier non carboné et respectueux des droits de l'homme. Donc voilà, c'est quelque chose qui a déjà été réfléchi, et notamment au niveau du Conseil national de l'Église protestante unie, le synode national de l'Église protestante unie de France demande au Conseil national, donc notamment, de veiller à la cohérence des engagements de l'Église à l'endroit des biens dont elle dispose et des outils qu'elle utilise. Biens immobiliers, placements financiers, etc., etc. Donc en fait, il y a une démarche au niveau national, ouais, de ce point de vue-là, avec également, j'ai entendu parler d'économistes qui ont été sollicités pour vérifier le caractère éthique de certains fonds, le caractère éthique aussi de placements qui ont été faits, parce que si l'Église protestante unie de France, voilà, c'est pas non plus une église qui roule sur l'or, mais il y a aussi quelques fondations qui viennent financer certains projets. Et souvent, quand on voit de l'argent qui arrive de la part d'une fondation, eh ben, on est content et on pense pas forcément à titiller pour voir si... Et en fait, notamment une fondation qui finance des projets d'évangélisation, de liturgie, eh bien, celle-là aussi, il y a eu des vérifications qui ont été faites par...
Donc, il y a plus de contrôle, vraiment.
Il y a cette volonté de contrôle, il y a cette volonté donc de ce que j'ai échangé notamment avec la responsable nationale donc sur les questions de transition écologique et justice climatique au niveau de mon église. Il y a en tout cas une attention à ce que de ce qu'elle m'a dit que s'il y avait d'éventuels placements dans les énergies fossiles, ce serait moins de 1%, donc sous la barre de détectabilité, plus ou moins. Donc, en tout cas, il y a vraiment cette démarche-là. Cette démarche, elle se fait au niveau national. Après, au niveau local, moi, je suis aussi membre du conseil presbytéral de ma paroisse. Et j'ai régulièrement, quand il est question d'une fondation à laquelle on fait appel, je pose des questions pour savoir, mais en fait, ces fonds, ils sont placés à quelle banque? Est-ce que on est sûr que ce sont des fonds éthiques? Ouais. Et donc ça, vraiment, je pense que c'est une question que tout un chacun peut poser à ses responsables ecclésiaux, en fait, et que c'est quelque chose qui fait aussi avancer la réflexion.
Olivier Bouillet, avant d'accueillir Jacqueline, vous avez les mêmes réflexes, vous, dans le diocèse de Grenoble-Vienne?
Disons que dans le diocèse, il faut bien garder en tête que le diocèse, l'association diocésaine est la seule entité pour tout un diocèse, c'est la seule entité en face des administrations fiscales, etc. Donc c'est le diocèse qui gère l'ensemble des finances de toutes les paroisses. Les paroisses sont certes des comptes bancaires, mais ces comptes sont des sous-comptes du diocèse. Et les placements des paroisses sont finalement tous consolidés dans ces fonds diocésains. Donc on a fait nos propres fonds. Là où je veux rebondir, c'est que effectivement on parle d'église qui roule pas sur l'or.
Oui.
J'ai fait un rapide calcul. Je pense que les fonds possédés par l'ensemble des catholiques pratiquants sont probablement plus de 10 fois supérieurs aux fonds possédés par l'église. Donc, l'action que peut avoir un diocèse a aussi et surtout un rôle de modèle. Donc, il est important de mener cette action et de le faire savoir, surtout de le faire savoir. C'est pour ça que quand j'ai, suite à mon interview de mon économe, quand j'ai découvert ça, j'ai dit, mais attends, ça, il faut le faire savoir. Donc, j'en ai fait des articles qui ont été publiés dans les journaux, le journal Église en Isère qui est déployé auprès de tous les catholiques.
J'aimerais qu'on écoute Jacqueline au 04 72 38 20 23. Bonjour Jacqueline.
Oui, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour la qualité de votre émission. Là, tout à l'heure, l'heure précédente, vous parliez d'une lettre qui a été conçue par les Scouts de France pour être reléguée auprès des responsables d'église. Où peut-on obtenir cette lettre?
Merci Jacqueline pour votre appel. Et oui, alors ça, on en a parlé dans la première partie de l'émission, je pense, donc j'ai agi. Cette démarche des Scouts et Guides de France, elle est à replacer plus largement dans le cadre des campagnes initiées par le mouvement La Dot aussi, et donc bien sûr du collectif Lutte et Contemplation, Charlotte Mijon. Mais en tout cas, ça a été peut-être un redéclencheur, peut-être pas un élément déclencheur, mais cette lettre destinée à la BNP, pour tout dire, a été rendue publique. Charlotte, où est-ce qu'on peut la trouver? Où est-ce qu'on peut la lire? Est-ce que sur Internet, c'est facilement trouvable, par exemple?
Alors, moi, je n'avais pas la lettre en tête, mais par contre, le kit conçu par Lutte et Contemplation pour interpeller son église est disponible sur le site de Lutte et Contemplation.
Oui.
Voilà,
pour la campagne de désinvestissement des énergies fossiles, un kit pour, mais à destination de qui? Est-ce que c'est à destination des fidèles ou justement peut-être aux responsables de paroisses, de diocèses, de lieux religieux aussi?
Là, ce kit, il est, oui, voilà, c'est à la destination donc de toute personne en charge d'une communauté religieuse, d'une paroisse. Donc c'est voilà, et avec notamment pour les catholiques des arguments qui permettent de s'appuyer sur différents textes pour expliquer la démarche. Donc voilà, c'est une démarche qui peut être utilisée par tout un chacun, et je recommande à toute personne d'aller rechercher ce kit sur le site de Lutte et Contemplation.
Avec un modèle donc de lettres qu'on peut envoyer.
Oui. Tout à fait. Donc un modèle de lettre qu'on peut envoyer et pour compléter en fait, il y a eu des modèles qui ont été faits spécifiquement donc pour une paroisse catholique, pour une communauté religieuse, pour même une paroisse membre de l'Église protestante unie de France et également pour des églises plus de type, on va dire, congrégationaliste, de par exemple des églises évangéliques. Donc il y a une volonté donc de voilà d'essayer de voir large, de voir œcuménique aussi pour que tout un chacun puisse s'en saisir.
Quel regard vous portez, Olivier Boulier? Alors vous l'avez dit un peu tout à l'heure, hein, c'est un regard plutôt positif, mais sur cette énergie qui est mise aussi pour essayer de sortir de ces énergies fossiles.
C'est l'énergie et le dynamisme qui vient en plus et se rajouter, oui. Alors, par exemple, dans le cas du diocèse de Grenoble, il est clair qu'il y a déjà un dispositif qui a été mis en place, que j'ai d'ailleurs communiqué à tous mes collègues dans nos réunions annuelles. Il y a déjà un dispositif en place, il y a déjà un fonds, donc qu'une paroisse écrive à l'économe, je pense pas que ça arrivera beaucoup, puisque les paroisses savent déjà ce qui se passe. Mais de créer un fonds, effectivement, faire créer un fonds dédié à un diocèse, bon, tous les diocèses ne peuvent pas se le permettre, hein, il faut un minimum de 5 à 6 millions d'euros pour faire créer un fonds, ce qui est beaucoup pour un particulier, ce qui est pas monstrueux pour un diocèse, mais tous les diocèses n'ont pas, même en consolidant toute la paroisse, n'ont pas ces montants-là. Donc, de faire créer un fonds, je pense que c'est la solution, et d'ailleurs le mouvement Laudato aussi l'a reconnu, c'est la solution entre guillemets ultime, parce qu'on sait parfaitement ce qu'il y a dedans, c'est notre fonds. Donc, je pense que c'est une très bonne solution qui est réplicable par un certain nombre de diocèses.
Charlotte Mijon, qu'attendez-vous de l'Église, vraiment de l'institution? Est-ce que vous attendez une prise de position? Est-ce que vous attendez une réaction publique, peut-être? Un engagement public?
Moi, ce que j'attends de mon Église, personnellement, ce que je vois, c'est qu'elle fait des choses, mais qu'elle ne communique pas forcément dessus. Je pense aussi que ça a beaucoup à voir avec la culture protestante, c'est que voilà, on se dit on fait les choses parce que c'est une question de justice et pas juste pour être bien vu. Et ça, c'est tout à fait louable. Mais ce que je trouve intéressant quand même, c'est que si l'Église affirme certaines choses, c'est aussi une manière d'entraîner à sa suite. Et c'est aussi une manière de poser un signe, de poser une parole pour engager des personnes individuellement, donc à elles-mêmes s'interroger et à elles-mêmes agir, en fait. Donc, c'est vraiment... Je pense que c'est un sujet sur lequel il faut qu'on mette plus en avant ce qui est fait, en fait. Donc, et après, c'est aussi une question, quand on dit l'Église, là, je parle de l'institution nationale, mais l'Église, en termes protestants, ce n'est pas seulement l'infrastructure nationale, l'Église, c'est nous, c'est chacun de nous qui faisons, des croyants, qui faisons vivre, en fait. Et donc, c'est aussi à chacun, chacune de nous, de se sentir responsable et d'agir, parce que c'est une question de justice, en fait. C'est une question de justice nord-sud, de question de justice intergénérationnelle, et que c'est quelque chose qui, voilà, il faut mettre en œuvre, en fait.
Donc, il faut réussir à interpeller les fidèles.
Il faut que nous-mêmes, nous prenions conscience de cet enjeu-là. Et là-dessus, par exemple, ce que fait Église Verte en incitant, par exemple, à aborder les questions de respect de la création dans la liturgie, est une bonne chose. Et je pense que ce sont des sujets qui doivent prendre plus de place, en tout cas, dans la liturgie, dans la prédication, parce que aussi, notre théologie ne doit pas être hors sol. En ce qui me concerne, là, je parle aussi en tant qu'étudiante en théologie qui aspire à devenir pasteur. Ouais. Mais personnellement, je pense que notre théologie, elle doit être profondément ancrée dans le monde dans lequel nous vivons et en réponse au monde qui se profile. Et personnellement, il faut que nous ayons une réflexion théologique qui soit aussi, qui tienne compte de ce qui nous attend, qui tienne compte de ce monde où il y a de profondes injustices, d'un monde où il y a un réchauffement climatique qui est déjà en cours, qui frappe de façon disproportionnée les personnes qui ont le moins contribué, et un réchauffement climatique qui est aussi nourri par les inégalités économiques. Et ça, si nous prêchons l'amour du prochain, si nous prêchons le fait d'aimer le prochain comme soi-même, eh bien, c'est quelque chose qui doit se traduire en termes très concrets et qui doit se traduire. On ne peut pas juste se contenter d'annoncer le salut par la grâce. Il faut aussi annoncer la responsabilité que nous confère ce salut, en fait. Et cette responsabilité, d'agir, de faire tout ce qu'on peut pour aimer notre prochain. Aimer, ça veut dire vouloir du bien, vouloir aimer son prochain comme soi-même, c'est vouloir pour son prochain des conditions de vie aussi bonnes que celles qu'on se souhaite pour soi. Et donc, très concrètement, ça passe pour moi par une prise de conscience très concrète de nos actions, en fait. Ouais.
Et vous, Olivier Bouillet, qu'est-ce que vous dites à votre Église, à l'Église catholique? Qu'attendez-vous de l'Église catholique en la matière?
Ah, c'est une exemplarité. Il est clair que, je l'ai déjà dit, bon, il y a les fonds de l'Église. D'ailleurs, au sujet des fonds, je pense qu'on peut même être un petit peu plus fin. C'est un peu comme dans notre situation personnelle. Il y a d'un côté notre compte en banque, de l'autre côté nos économies qui sont sur notre livret A ou sur notre contrat d'assurance vie. Ce sont donc deux parties de nos finances qu'il faut regarder. D'ailleurs, il y a 10 ans, j'ai regardé ce qu'il y avait dans un livret A et on m'avait dit que le livret A finançait le logement social. J'ai dit, c'est super. Mais quand j'ai regardé un peu, on le voit sur Internet, le livret A ne finance le logement social qu'à hauteur d'un tiers du montant. Les deux autres tiers, ce sont des dettes financées des gouvernements et des États. Bon. Donc, c'est important, même pour les particuliers, de savoir où ils mettent leur argent. Je parle des économies. Allez, on va parler des économies et non pas du compte courant. Les économies du diocèse, j'en ai déjà parlé, on a créé un fonds.
Oui.
Mes économies personnelles, parce qu'étant écolo depuis longtemps et ayant un bon job, j'ai fini par devenir riche, vu que je suis frugal. Mes économies personnelles, j'ai vérifié sur tous les contrats d'assurance vie que j'avais, quels étaient les fonds initiaux des contrats d'assurance vie. D'ailleurs, j'ai aussi des placements qui sont ailleurs, en dehors d'assurance vie. Et j'ai procédé à des arbitrages après avoir écrit aux gestionnaires de fonds, en leur disant sur ma lettre, ce courrier vous fera peut-être sourire car je ne suis pas milliardaire, mais qu'importe, j'aurai fait ma part. Et ces courriers, j'ai surtout communiqué autour d'eux. Je les ai mis sur les réseaux sociaux, je les ai postés sur LinkedIn, je les ai postés sur Facebook. Que ce soit mon courrier personnel ou que ce soit l'article du diocèse.
Pour qu'il y ait une prise de conscience, et ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure. On va marquer une petite pause, Olivier et Charlotte. On va continuer d'en discuter dans un instant avec toujours vos réactions au 04 72 38 20 23. Si vous êtes engagé d'une manière ou d'une autre contre les énergies fossiles, venez témoigner. Dites-nous, en tant que chrétien, pourquoi c'est important pour vous? Et savez-vous si votre diocèse ou votre paroisse a désinvesti ou s'apprête à le faire? On vous attend au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Il est 10h30 dans Je pense donc j'agis. Vous venez participer à cette émission au 04 72 38 20 23. Venez nous parler des énergies fossiles et des campagnes de désinvestissement lancées par des chrétiens. Dites-nous en quoi vous vous sentez concerné par tout cela. 04 72 38 20 23.
Je ne suis jamais en retard quand c'est l'heure d'aller au boulot. Je me lève tôt, je me couche tard, parfois j'ai un peu mal au dos.
La vie normale, je l'aime bien, même si parfois je rêve d'être loin. Et si mes rêves sont banals, c'est peut-être que je les vaux bien.
Ce n'est pas de l'or dans les mains,
ce n'est pas avoir 20 sur 20, ni être roi, ni être reine, juste avoir la moyenne.
La vie normale, c'est dès qu'on peut mater les étoiles et être heureux. Et puis quand il n'y en a pas, eh ben, on s'en met dans les yeux.
Alors une fois la nuit tombée, je me balade parmi les gens. Je les entends rire, je les vois danser, ça me fait me sentir vivant.
Et ça rend extraordinaire ma vie, tout à fait ordinaire. Et ça rend extraordinaire ma vie, tout à fait ordinaire.
Dans cette rame de métro, on se sert sans même se parler. Et si on est certainement trop, on reste beau à regarder.
On est beau de nos différences, bienvenue à toi l'étranger. Parle-moi de ton pays, je pense que ça me ferait voyager.
La vie normale, c'est comme la tienne, vivre des choses qu'on s'en souvienne. Je me contente de rien, tu vois, je veux juste le respect qu'on me doit.
La vie normale, si on l'ose, c'est comprendre qu'on n'est pas grand-chose, qu'il n'y a de grand que l'amour que l'on peut donner chaque jour.
Alors une fois la nuit tombée, je me balade parmi les gens. Je les entends rire, je les vois danser, ça me fait me sentir vivant.
Et ça rend extraordinaire ma vie, tout à fait ordinaire. Et ça rend extraordinaire ma vie, tout à fait ordinaire.
De l'or dans les mains,
ce n'est pas avoir 20 sur 20,
ni être roi, ni être reine,
juste avoir la moyenne.
La vie normale, c'est comme la tienne,
vivre des choses qu'on s'en souvienne.
Je me contente de rien, tu vois,
je veux juste le respect qu'on me doit.
Alors une fois la nuit tombée, je me balade parmi les gens.
Je les entends rire, je les vois danser, ça me fait me sentir vivant.
Et ça rend extraordinaire ma vie, tout à fait ordinaire.
Et ça rend extraordinaire
ma vie, tout à fait ordinaire.
Je ne suis jamais en retard quand c'est l'heure d'aller au boulot.
Je me lève tôt, je me couche tard, parfois j'ai un peu mal au dos.
Icard et Gauvin Serre pour vous accompagner en ce mardi matin, la vie normale.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Avec nos deux invités jusqu'à 11h, Olivier Boulier, je rappelle que vous êtes catholique et référent écologie intégrale pour le diocèse de Grenoble et Vienne. Et puis Charlotte Mijon, vous êtes protestante, responsable du label Église verte à l'Église protestante unie de Rennes. Et vous faites également partie du mouvement Lutte et Contemplation. On continue d'évoquer ces fameuses campagnes de désinvestissement des énergies fossiles avec également vos témoignages au 04 72 38 20 23. Nous avons Henriette avec nous. Bonjour Henriette.
Bonjour monsieur et bonjour à tous et à toutes. Et un grand merci aux participants, parce que je suis quelqu'un d'un petit peu âgé maintenant, mais l'avant des actions de Total, eh bien, c'est un groupe qui m'intéresse pour avoir travaillé dans une de ses filiales il y a longtemps, mais enfin voilà. Donc ça fait toujours tilt. Voilà. Donc deux choses. Premièrement, vous remercier de la qualité de connaissances et des personnes qui viennent d'intervenir et qui osent dire certaines choses concernant le livreur. Merci beaucoup. Peu de personnes le savent, je pense, à quoi sert le livreur. On a des idées reçues et elles sont largement dépassées depuis longtemps. Voilà. Alors moi, je vous appelais pour toujours un petit peu mon bâton de maréchal, si j'ose dire, qui est la communication des informations que nous obtenons dans vos émissions. Pour avoir, madame, c'est Charlotte, je crois.
Charlotte, oui.
Pour avoir accès au modèle de lettres, bon, on n'a pas forcément Internet et on ne vous a pas forcément non plus écouté ce matin parce qu'on avait peut-être une autre activité. Donc, je suggère, mais je n'ai pas d'ordre à donner au responsable du diocèse, hein, je suis un simple paroissien, une simple paroissienne, je suggère encore et encore une fois et pour d'autres vins,
de proposer aux responsables d'église, etc., de locales, de mettre en aparté de sur une entrée ou sur la sortie, là où il y a les panneaux d'affichage, en église, ça touchera au moins cette population-là, comment on fait, et déjà que ça existe. Et certainement que de nombreuses personnes, ou qui n'ont pas Internet, ou qui, encore une fois, je me répète, mais c'est important, qui n'ont pas eu l'opportunité de vous écouter, on regarde, tiens, que le panneau, on regarde, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans la messe de spécial le dimanche prochain, qu'est-ce qui se passe, et de lire, ah, bah, tiens, il y a une lettre et je peux y accéder. Voilà, et moi, je soutiens vraiment ce projet qui est tout simple, qui ne coûte pas beaucoup d'argent, il suffit d'avoir un feutre et de l'écrire en bas du panneau d'affichage. Voilà, mais il faut le sou, évidemment, il faut l'accord des personnes du diocèse. Mais ça pourrait être tellement simple et diffusé dans des églises un peu éloignées des centres-villes, ou dans des centres-villes où il y a trop de monde et on ne voit pas grand-chose les jours de fête. Voilà, et qu'on connaisse ce sujet parce que c'est très important.
Et c'est très intéressant, Henriette. Et vraiment, merci beaucoup d'avoir pris le temps de témoigner, d'avoir apporté ces différentes idées à l'antenne ce matin. Olivier Bouillet, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le manque de communication, ou en tout cas les efforts qu'il y avait à faire autour de ça. C'est une bonne idée.
Oui, et je dirais aussi, appeler à la cohérence, parce que c'est pas tout de boycotter total, c'est pas tout de dire on désinvestit Total si on continue à aller faire le plein chez Total parce que l'essence y est moins chère. C'est pas le tout de dire on désinvestit du fossile si on continue à utiliser notre voiture autant qu'avant et si on fait rien pour isoler notre maison. Donc c'est aussi important d'avoir un comportement qui est de dire si on veut sortir du fossile, il y a certes l'action par notre finance, mais il y a l'action par nos gestes au quotidien. Et l'ensemble doit être cohérent. Et j'appelle vraiment à la cohérence. Moi, à titre personnel, j'ai mesuré. Bon, ça a pris 20 ans, mais en gros, j'ai divisé par deux les kilomètres que j'ai fait en voiture. Et j'ai divisé par trois la consommation de gaz que j'avais pour chauffer ma maison. Par de multiples actions qui, entre guillemets, ne valaient pas forcément le coup si on raisonne d'un pur point de vue financier. Je pense qu'il faut qu'on sorte de ce point de vue financier. Parce que tant qu'on sera piloté par ça et par la rentabilité de nos actions, eh bien, on retombera dans le fossile, parce que le fossile, c'est vachement rentable et c'est vachement bien financièrement. Donc là, il y a une cohérence entre ce qu'on fait de notre argent et en tant qu'économie, et ce qu'on fait de notre argent quand on le dépense. C'est important d'avoir ça. Et on peut effectivement communiquer sur ces petits gestes, parce que communiquer un peu de manière théorique, je ne dis pas du tout que ce qui a été fait est théorique, mais de manière théorique en disant aux gens désinvestissez du fossile dans vos économies. Bon, c'est un petit peu compliqué. Oui, désinvestissez du fossile, mais faisons tout pour sortir du fossile en tant que société.
Peut-être qu'il y a un mode d'emploi aussi, un peu comme ce que vous proposez à Lutter Contemplation, Charlotte Mijon. Comment vous accueillez ce témoignage d'Henriette et cette bonne idée?
Eh ben, c'est un rappel, effectivement, que, enfin, voilà, moi, j'appartiens à une génération où tout le monde, ou presque, est connecté à Internet et a l'habitude de regarder sur un site. Mais, effectivement, c'est un rappel qui est nécessaire, que tout le monde n'a pas Internet, que nous, tout le monde n'a pas cette pratique. Et que, voilà, que l'important, c'est aussi, pas seulement d'aller regarder sur un site, mais c'est aussi, l'information de proximité et l'information de personne à personne. D'autant plus que ça m'évoque quelque chose. Il y a eu un sondage qui a été fait, notamment commandé par l'association Arocha, qui est une association chrétienne, donc très intéressée par l'écologie, sur la perception de l'écologie et des enjeux de climat par les chrétiens. Et, excusez-moi, ce dont on s'est rendu compte, en fait, c'est que la principale source d'information, le principal lieu de discussion qu'avaient les chrétiens pour aborder ces questions-là, c'est leurs proches. C'est vraiment, est-ce que mes proches font quelque chose? Est-ce que ma famille fait quelque chose? Et donc, c'est vrai qu'il y a cette question de proximité, cette question de faire savoir autour de soi, et pas seulement... je pense que mon association... Enfin, le collectif a vraiment raison de mettre les choses en ligne, et il faut le faire, et dans tous les cas, il faut le faire. Mais qu'il y a aussi cette dimension de proximité qui n'est pas à négliger et à laquelle il faut veiller dans les paroisses dont on fait partie.
D'aller dans les proximités, et ça rejoint aussi ce que disait un peu le pape François, de ne pas oublier celles et ceux qui peut-être n'ont pas forcément la possibilité d'avoir des connexions Internet et qui pourtant sont quand même bien présents dans les églises, Olivier Bouillet. Ou dans les temples, bien sûr.
Mais bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, une des missions des équipes Église Verte qui sont en paroisse, hein, puisque c'est, enfin, chez nous, chez les catholiques, c'est principalement dans les paroisses ou dans les monastères, mais en paroisse où il y a une équipe l'Église Verte, une de ses missions principales, c'est de communiquer auprès des paroissiens. Communiquer localement, en leur suggérant des idées pratiques et concrètes. Et bon, sur le désinvestissement, c'en est une. On peut très bien imaginer qu'une équipe Église Verte fasse une soirée information sur les investissements pétrole dans leur paroisse. J'imagine que ça doit faire partie du kit de lutte et contemplation, d'ailleurs.
Charlotte ?
Eh ben, c'est quelque chose qui peut être effectivement le cran du dessus, après avoir interpellé, fait sa petite lettre qui, comme le disait Édouard Villepoux tout à l'heure, ça peut prendre juste un quart d'heure. Effectivement, faire au sein de la paroisse une soirée pour aller plus en profondeur sur ces enjeux-là, c'est effectivement tout à fait pertinent.
On a parlé de choses assez concrètes depuis le début de cette émission, c'est tant mieux parce que l'émission s'appelle « Je pense, donc j'agis ». J'aimerais qu'on parle de la foi un peu. Pourquoi un chrétien devrait-il s'impliquer dans ce mouvement ? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec sa foi véritablement, d'après vous, Charlotte Mijon ?
Pour moi, ça, alors on n'a pas besoin d'être croyant pour s'impliquer pour la justice climatique, ça c'est sûr. Mais pour moi, si on est croyant, si on ressent en soi l'amour de Dieu pour l'humanité, eh bien il y a forcément une réponse à apporter. Et cette réponse, elle doit se traduire en actes aussi. Elle doit se traduire en termes de responsabilité. Donc pour moi, il y a totalement quelque chose qui est lié à la foi, c'est-à-dire que ma relation, ma spiritualité m'engage en ce qui me concerne. C'est-à-dire que je ne peux pas juste me contenter... la foi, c'est pas du développement personnel. C'est pas juste se sentir bien avec son Dieu, c'est aussi comment ma spiritualité, ma foi m'ouvre au prochain et m'ouvre à la question de la souffrance du monde autour de moi et me pousse à agir. Donc il y a vraiment une question de cohérence et une question de justice en acte, en fait.
Olivier Bouillet, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors moi, je suis pas ni pasteur, ni prêtre, ni grand théologien. Donc je vais être avec, comme on dit, le pot d'échappement au ras du gazon, pour prendre cette analogie.
Je connaissais pas ça.
Le lien avec ma foi, il y a l'Ancien, il y a le Nouveau Testament. Dans Genèse 1, mon Créateur nous a confié une création. Alors, est-ce que c'est remplir ma mission que de la bousiller, sa création ? Je pense pas. Donc, rien que ça, rien que le fait que cette création ait été confiée à l'homme pour la cultiver, etc., fait que on peut pas faire ça n'importe comment. Et donc, l'engagement écologique pourrait se justifier sur ce seul point-là, deux fois. Et puis, il y a un deuxième point qui a été rappelé par Charlotte. Christ est venu pour nous apporter le commandement d'amour de notre prochain. Notre prochain, ce sont ceux qui habitent à l'autre bout du monde. Est-ce que c'est les aimer que de leur bousiller leur cadre de vie et de leur faire remonter l'eau dans leur champ ? Mon prochain, ce sont aussi les générations à venir. Est-ce que c'est faire preuve d'amour pour elles que de leur confier une terre complètement dégradée ? Donc, tout simplement, et pour être très caricatural, entre Ancien et Nouveau Testament, on peut parfaitement trouver deux messages très complémentaires qui justifient un engagement très large dans l'écologie. Et donc, le désinvestissement fossile le retrait du fossile, parce que l'investissement n'est qu'un moyen pour s'en tirer, le retrait du fossile est une nécessité aujourd'hui, on le sait tous, les membres du GIEC nous l'ont dit, je pense que lutte et contemplation en a parlé, c'est une nécessité de ce retrait du fossile par tous les moyens. Pour ces raisons qui sont aussi dictées par ma foi, bien sûr.
Et ça, c'est important d'en avoir conscience. Je reviens sur l'encyclique Laudato Si. On avait fait une émission à l'occasion, je crois, des... Alors, c'était pas les 15 ans, les 10 ans, non. Je sais plus pourquoi on avait fait une émission. En tout cas, on avait célébré Laudato Si l'année dernière, Charlotte Mijon. Et en fait, on se rendait compte à quel point beaucoup de chrétiens n'avaient pas encore lu ou en tout cas ne connaissaient pas vraiment cette encyclique Laudato Si.
56%.
Ça, ben voilà. Merci beaucoup de compléter, Olivier. Vous voyez comme j'ai bien préparé l'émission. Mais ça veut dire qu'il y a encore... Je vais y aller vraiment franco, mais il y a de l'éducation à faire aussi chez les chrétiens sur les questions écologiques, Charlotte.
Complètement. Bah, ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et en fait, surtout, expliquer en quoi c'est aussi notre tâche en tant que chrétien de s'intéresser à ces questions d'écologie. Si je regarde, par exemple, les mouvements protestants, la question de la justice sociale, là, c'est à peu près OK que c'est de notre ressort. En revanche, culturellement, je pense qu'il y a encore du travail pour que... Dans beaucoup de milieux chrétiens, on comprenne que ces questions d'écologie sont aussi un prolongement de cette question de justice sociale. Pour qu'on comprenne en fait que c'est quelque chose qui nous concerne et qu'il ne s'agit pas juste de... Et surtout, je pense qu'il y a un paradigme qui est important, c'est que la création n'est pas extérieure à nous en fait. Nous sommes... la création, nous faisons partie de la création. Et qu'en fait, ce n'est pas juste un objet en plus, en fait. C'est s'intéresser à un tout dont nous faisons partie. Et que de ce point de vue-là, nous ne pouvons pas nous désintéresser de ce tout dont nous faisons partie. Et donc, vraiment, il y a... Je pense qu'il y a des prises de conscience un petit peu paradigmatiques à avoir, parce que pour, je sais que dans beaucoup de milieux d'église, on entend dire oui, mais on parle beaucoup d'écologie, mais on parle pas, enfin, l'important c'est le social. Enfin, il ne faut pas opposer les deux pour moi. Il ne faut pas opposer les deux pour moi. Ça fait partie d'un tout en fait.
On a une auditrice qui est un peu perdue, elle s'appelle Isabelle et elle nous dit « Je trouve votre émission intéressante, mais je suis un peu perdue. » Dans la première partie, peut-être que vous en avez entendu une partie justement, un intervenant a dit que les petites actions ne servaient à rien et dans la seconde partie, les intervenants les mettent en avant. Je trouve ça assez intéressant de cette remarque d'Isabelle. Alors, je pense que c'était Julien Le Fournier qui avait dit ça. Pas de cette manière, d'ailleurs, si je peux me permettre de rectifier un peu ce qu'a dit Isabelle, mais il disait qu'en effet, il fallait qu'il y ait, que la tendance s'inverse complètement autour de ces sujets des énergies fossiles. Mais par contre, Olivier Boulier, vous êtes convaincu, vous, que les petites actions peuvent vraiment servir à quelque chose ?
Je suis convaincu, pour revenir sur la question précédente, je reviendrai sur les petites actions.
Tout à fait.
Je suis bien sûr convaincu que un de nos jobs, c'est de l'information, de la prise de conscience, comme ça a été dit. Et d'ailleurs, pour ce faire, on utilise des outils de la société civile qui existent et qui sont très bien. Personnellement, je suis formé fresqueur, comme on dit, animer des ateliers de fresque du climat ou de fresque de la biodiversité. On utilise aussi des ateliers d'automne dans les paroisses, et ça fait très souvent, ça aide à démarrer une équipe Église verte. Quand une équipe Église verte se crée quelque part, elle organise, elle nous demande de les aider à organiser des fresques du climat pour sensibiliser les uns les autres. Je crois que la formation et l'information, on en parlait pour les désinvestissements, mais déjà sur la situation climatique est importante. Et donc ça, c'est une chose à faire. Je pense à tout prix, pour aider à la prise de conscience. Alors, il n'y a pas que la foi, vous voyez, il y a à la fois la prise de conscience de la problématique technique dans laquelle on se met avec le pétrole, et puis notre foi vient renforcer notre désir d'action. Alors, petites actions, grandes actions, c'est vrai que c'est aussi important d'avoir des idées d'ordre de grandeur.
Oui.
On sait que parmi nos actions personnelles, il y a des actions importantes et des actions futiles. Je ne dis pas que trier les déchets ne sert à rien, mais ça ne sert à rien de trier les déchets si on continue à prendre sa voiture pour faire 25 000 km par an. Il y a un rapport 1 à 100 entre les impacts. Donc c'est important de connaître les ordres de grandeur des petites actions, des grandes actions. Ensuite, actions personnelles ou actions collectives. Là encore, il y a des chiffres qui circulent. Certains disent les actions personnelles ne feront jamais qu'un quart du chemin, ou un tiers, ou la moitié. Peu importe. Toutes les actions sont à mener. Toutes les actions sont à mener. Quand je parlais de personnellement, ma baisse de voiture, je pense que c'est important, la baisse de voiture, la baisse dans l'alimentation. Et puis, les actions dans notre investissement pour revenir faire le lien avec nos études. Je pense que tout doit être fait en cohérence, avec une motivation, mais toutes les actions sont à mener. Il n'y en a pas de petites. C'est comme la veuve de Sarepta. Chacun amène sa pièce. Ou comme le colibri dont on use et abuse. On ne fera pas... Les colibris ne feront pas tout, mais on ne fera pas sans les colibris.
Ouais. C'est vrai que les colibris, on les invoque souvent dans les émissions. On a Philippe qui nous a laissé un message dans le groupe Facebook, je pense, donc j'agis. Et il dit bien évidemment que c'est la somme des comportements individuels qui crée et oriente les activités des grandes entreprises. Si plus personne ne fait des allers-retours Paris-New York, alors Total n'investira plus dans le kérosène. Voilà, ça c'est un petit exemple.
Tout à fait. Et
vous, Charlotte Mijon, petites actions, grandes actions, quel est votre regard en tant que protestante, en tant que militante aussi?
Je pense que personnellement, il faut activer tous les leviers qu'on a sous la main. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que, par exemple, les actions individuelles, ça ne représente qu'un tiers ou un quart, qu'il faut s'en passer. Et l'important, c'est d'activer tous les leviers, que ce soit au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau politique, au niveau structurel. Et bien sûr, ne pas se dire, j'ai trié mes déchets, ça y est, c'est bon, je suis super écolo. Et avoir une lucidité, mais faire tout ce qu'on peut faire. Et par rapport aux actions individuelles, il y a aussi une chose dont on parle peu, c'est que une action individuelle d'une personne qui, par exemple, a des revenus limités, qui gagne peu et qui donc se déplace peu et qui donc a une toute petite maison, c'est pas la même chose. Une personne très riche qui a un impact beaucoup plus important parce que elle prend l'avion plusieurs fois par an, parce que elle a plusieurs maisons beaucoup plus grandes. Et il y a aussi une question, l'action individuelle, d'accord, ça peut être limité, mais c'est plus ou moins limité selon aussi la richesse dont on dispose, le patrimoine dont on dispose, et il y a une responsabilité à avoir. Notamment, alors je dis pas que tout le monde est dédouané, mais en tout cas, notamment pour les personnes les plus aisées, de s'intéresser au sujet particulièrement sur leurs actions, parce que l'impact de leurs actions de consommation et aussi l'impact, et on revient au sujet, de leurs investissements, de où sont, comment travaille l'argent qui est de leur épargne, a un impact qui est beaucoup plus important que celui de, on va dire, du français moyen. Il y a une étude d'Oxfam qui est parue là-dessus en septembre dernier, si je me souviens bien, qui est extrêmement parlante de ce point de vue-là, qui montre les disparités en termes de responsabilité dans les émissions de gaz à effet de serre entre, par exemple, les 10% les plus riches, voire les 1%, et les 50% les plus modestes. Donc c'est vraiment aussi, je pense, une responsabilité en plus pour les personnes les plus aisées.
On arrive doucement à la fin de cette émission. Ce n'est pas fini, Olivier et Charlotte, parce que comme tous les mardis, on ouvre un petit peu le sujet avec notre chroniqueur. Et alors que les initiatives se multiplient au nom de l'environnement et du respect des droits humains pour tenter de réguler ce qu'on appelle la fast fashion, qui fait écho aux géants du textile tels que Shein, Zara ou encore H&M, on reçoit Julien Deséchaux, directeur de publication du Média Sans Transition, qui a suivi ces dernières actualités. Bonjour Julien.
Bonjour Melchior.
Alors, proposition de loi récente d'une députée et initiative du ministre de la Transition écologique, à l'heure de la campagne des européennes, les politiques tentent d'amorcer des actions emblématiques.
En effet, face aux résultats records des multinationales que vous avez citées à l'instant, Melchior, les politiques tentent de reprendre la main sur un secteur qui leur échappe. Il émet tout de même 10% des gaz à effet de serre, 4 fois plus que celle de l'aérien. L'enjeu environnemental est colossal, mais également social, puisque 70% des vêtements vendus en France sont fabriqués en Asie du Sud-Est, où la main-d'œuvre est exploitée, ça tout le monde le sait à présent, avec 3,3 milliards d'articles commercialisés en France en 2022. Jamais autant de vêtements et de chaussures n'ont été vendus sur le territoire. Anne-Cécile Violent, députée de la Haute-Savoie, côté Horizon, est à l'origine d'une proposition de loi du 7 mars dernier visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile. Dans la même dynamique, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a réuni le 4 mars les acteurs de l'écosystème de la mode lors d'une matinée baptisée de l'Ultra Fashion à la mode durable. Objectif, échanger sur les enjeux d'une mode française durable et accessible à tous.
Alors, quelles propositions sont sorties, Julien, de ces échanges et de cette proposition de loi ?
Côté proposition de loi, la mise en place d'un dispositif bonus-malus sur les vêtements est envisagée. L'ultra fast fashion serait plus cher qu'elle ne l'est aujourd'hui et la mode durable moins grâce à ce bonus. Une pénalité pouvant aller jusqu'à 10 euros par article pourrait être appliquée du côté du ministère. Le renforcement de l'information du consommateur est également prévu. Les marques de la fast fashion devront afficher sur leur site internet un double message. D'une part, un message de sensibilisation à l'impact environnemental, un peu comme les fabricants d'alcool ou de tabac, et un message pour encourager le réemploi de ces produits. À noter que la publicité serait aussi interdite pour ces marques.
Alors comment on réagit, ces associations, à ces annonces, Julien ?
La coalition Stop Fast Fashion, qui réunit 8 organisations engagées pour en finir avec les ravages de cette industrie, salue cette initiative inédite, espère que le débat démocratique pourra aboutir à un texte forcément efficace. Pour ce faire, elle demande à fixer des critères ambitieux, pour freiner le renouvellement permanent des collections. Leur objectif, que toutes les marques qui proposent plus de 5000 modèles par an soient considérées comme relevant de la fast fashion et que cette loi s'applique notamment à toutes les plateformes de commerce en ligne. Ces mesures permettraient de ne pas pénaliser uniquement Shine ou Temu, mais également des marques comme Zara, Primark, H&M ou Action, ainsi que les plateformes comme Amazon, dont les pratiques ont des effets délétères sur l'environnement. Restreindre la portée de la loi à 2 marques serait contre-productif, disent les associations, et ne permettrait pas de répondre aux problèmes systémiques de l'industrie textile, souligne-t-elle encore.
Eh ben, merci beaucoup, Julien Deséchos, d'avoir évoqué toutes ces informations à retrouver sur le site 100-transition-magazine.info. Merci Olivier Bouillet, Charlotte Mijon également pour votre participation. Et comme le dit le pape, tout est lié et je pense que ça a bien fait. On peut boucler cette émission avec cette chronique. Charlotte Mijon, merci à l'équipe de RCF à Rennes qui vous accueillait. Je rappelle que vous êtes protestante et responsable du label Église Verte, l'Église protestante unie de Rennes, et membre également du mouvement Lutte et Contemplation. Olivier, merci à l'équipe de RCF à Grenoble qui vous accueillait, catholique et référent écologie intégrale du diocèse de Grenoble-Vienne. Merci à Antoine et Catherine à la réalisation. On se retrouve demain, comme chaque jour, de 9h à 11h avec Madeleine Vatel. On parlera de la situation des travailleurs pauvres en France. Bonne journée à tous.